Directeur de la Radio Insolite, toujours au cœur de l'actualité, toujours à se soucier de ce que nous vivons dans les conditions météo un peu originales, puisqu'on parle durant l'été de canicule. Et là, on parle de certaines stations de ski qui ne sont même pas accessibles, tellement il y a de la neige et ça devient dangereux. Et là, et ben, ce matin, j'ai le plaisir de croiser Véronique pour parler du respect de l'environnement qui se conjugue au respect des hommes et des femmes. Bonjour Véronique.
Bonjour Alain.
Dis-moi, le respect de l'environnement... j'en ai parlé avec quelqu'un ce matin qui dit oh, c'est un peu phénomène de mode en ce moment.
Ah, ça c'est un raccourci. Alors merci de m'accueillir déjà. Bonjour à tes auditeurs. Et oui, alors nous sommes face à, parfois à un phénomène de backlash, comme on dit, à savoir à la fois une négation du changement climatique qui est en cours et de ses impacts, de ses conséquences, alors même que il y a lieu de constater que les effets sont déjà présents. Hein. Je crois que nous avons toute la façade ouest de la France qui est sous l'eau.
Exactement.
Ce n'est pas à couper du risque climatique et justement des aléas que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est pas un phénomène de mode. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de 50 ans, plus de 60 ans, ça dépend comment on date le phénomène, que un certain nombre de scientifiques ont alerté sur une dégradation de notre équilibre sur la Terre, l'équilibre climatique. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est surtout un gros dérèglement climatique qui impacte nos vies quotidiennes, nos continents et nos économies. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut s'en préoccuper. Et non, ce n'est pas un phénomène de mode. Alors, si de plus en plus de personnes s'en inquiètent, eh bien moi je dis tant mieux. c'est mon objectif.
Ce qui est un peu étonnant, c'est que tu viens de le dire, ça fait 50 ans qu'on constate ces petits trucs, ça devient régulier, et pourtant on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience.
C'est bien ce qui est dommageable, c'est cette distance en fait. Alors pour différentes raisons, alors il peut y avoir des polémiques, donc c'est pas forcément l'objet aujourd'hui du sujet, mais il peut y avoir des polémiques sur qui a masqué les informations, qui n'a pas souhaité ouvrir les yeux. C'est vrai que pris nos économies notamment occidentales, pris dans une tourmente, un tourbillon de progrès en fait qui paraissait évident. Il y a aussi une espèce d'euphorie après Seconde Guerre mondiale. On avait besoin de penser à autre chose. Et donc, effectivement, les alertes n'ont pas forcément été toutes entendues.
Et pourtant, comme tu dis, c'est vrai qu'on a une partie de la France qui est sous l'eau. Je ne parle même pas de l'Espagne qui est aussi en train de vivre des moments difficiles. C'est étonnant qu'il n'y ait pas cette mobilisation parce que là, ça met même la vie en danger.
Oui, tout à fait. Alors, c'est la vocation quand même de quelques mouvements ou quelques prises de conscience qui sont intervenues peut-être après post-Covid aussi. Donc, c'est vrai que, alors, le point clé, c'est il y a 10 ans, les accords de Paris en 2015. C'est vrai que l'Occident a un petit peu réagi et a compris aussi l'impact que économiquement, finalement, c'est ce levier-là qui est utile aussi parfois, malheureusement ou heureusement. Économiquement, nous avons un risque à prendre si nous ne luttons pas collectivement contre le changement climatique. Parce que un certain nombre d'activités sont directement impactées. Alors, on pense à l'agriculture, mais il y en a bien d'autres qui finalement aujourd'hui l'activité du loisir autour du ski ou bien autour du manque d'eau l'été dans certaines rivières. En fait, ça va d'un extrême à un autre. Quoi qu'il en soit, toutes nos économies aujourd'hui sont liées à l'environnement. Il y a un bénéfice à tirer de la nature. D'ailleurs, ça a donné lieu un terme qui s'appelle service écosystémique, voilà, qui veut simplement dire que la nature nous rend des services gratuitement. Et ça, finalement, il y a une prise de conscience autour de l'aspect fini de ces ressources et de ses possibilités. Et donc, une alerte rouge sur la limitation de la dégradation à laquelle nous devons tous contribuer. Voilà, c'est ces enjeux-là qui font que c'est à la mode, pour reprendre les mots de ton interlocuteur, mais c'est à la mode parce qu'on s'aperçoit qu'on est un petit peu au pied du mur. C'est un peu dommage, la nature humaine réagit parfois comme ça, mais bon, tant mieux. C'est quand on a le pied au fond de la piscine qu'on appuie et qu'on remonte, et c'est là qu'il faut tous agir. Et moi, je prône pour cette action. C'est l'objectif majeur.
D'accord. Ton cabinet s'appelle Enjeu Majeur et ton rôle principal, c'est de faire comprendre aux entreprises que chacun a quelque chose à faire dans ce domaine-là.
C'est ça, c'est l'objectif de ma société, c'est de pouvoir favoriser la prise de conscience dont on parlait. Alors certains grands groupes se sont déjà saisis du sujet. Mmh. Pour d'autres entreprises, ça reste plus confidentiel parce que la vocation d'un chef d'entreprise, on le sait, hein, c'est de pérenniser son activité. Et donc il a son quotidien, il a la fin de mois durant laquelle il doit payer ses collaborateurs. Mmh. Et malheureusement, il a parfois un peu de mal à prendre du recul sur ces enjeux-là, avec aussi parfois le sentiment qu'il ne peut pas spécialement à son niveau. Donc moi, j'ai vraiment cet objectif de pouvoir déclencher la prise de conscience et aider notamment les petites structures pour mettre en œuvre des actions, parce que des choses sont possibles. Et puis surtout, il y a cet aspect de sensibilisation. Les collaborateurs sensibilisés vont être d'autant plus acteurs à titre professionnel et à titre personnel. Donc ça va sur plusieurs niveaux. Mais les entreprises s'aperçoivent malgré tout qu'il y a tout intérêt à prendre en compte ces sujets-là. Parce que les collaborateurs aussi, dans la recherche de sens qu'on entend parfois, et notamment depuis 2020, post-Covid, les collaborateurs ont une recherche de sens. Et le sens, ils peuvent le trouver aussi avec une activité professionnelle qui va être plus respectueuse d'un ensemble environnemental et social. Il y a les deux piliers, le social n'est pas à négliger. Parce que les hommes aussi s'épuisent et finalement, 30 ans de carrière, parfois, on s'aperçoit qu'on est au bout. On est un peu comme avec nos ressources naturelles. D'où l'intérêt de prendre plus les actions en main pour prévenir et donc rester attractif.
Est-ce que ça s'explique ? Je me rappelle qu'à l'époque, on disait « c'est un mal pour un bien ». Est-ce qu'on peut expliquer toute cette évolution par le fait qu'on ait vécu cette phase de Covid assez conséquente, ou est-ce que c'est un changement de génération qui fait que cette nouvelle génération veut avoir une action beaucoup plus forte au niveau, comme tu disais, du sens? Est-ce que la fameuse RSE, dont on a tout le temps parlé, responsabilité sociétale de l'entreprise, a pris beaucoup plus de conscience dans les années qui viennent de passer?
Alors, l'ensemble des études sociologiques sur le sujet n'ont pas abouti sur les générations. Là, qu'est-ce qu'elles veulent, comment elles le veulent, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Mais force est de constater que prendre l'ensemble des données du problème en compte permet globalement d'avancer ensemble. Et donc, les jeunes générations sont effectivement demandeuses et elles veulent aussi être actrices. Alors, quand je dis jeune génération, tout dépend où on les place. La génération qui aujourd'hui est à l'œuvre dans les entreprises, elle a entre 25 et 40 ans, et elle ne veut pas agir comme la génération précédente. Elle ne veut pas travailler de la même façon. Et cet équilibre, cette recherche d'un nouvel équilibre, est peut-être sûrement à l'origine d'un développement de la RSE et d'une prise en compte. Ce qui est indéniable aussi, c'est le rôle de gros acteurs, de grosses entreprises qui se sont mis dans cette démarche, avec certains présidents, j'ai quelques noms en tête, mais certaines entreprises ont vraiment dans leur ADN cette volonté d'un respect de l'environnement, d'un respect des collaborateurs et finalement d'une progression collective vers du mieux-être. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de vivre correctement, mais donc d'être heureux. C'est un peu la philosophie qu'il faut retenir. En tout cas, voilà, il faut être face au climato-scepticisme, il faut être positif et valeureux.
Alors j'ai trois exemples à donner qui sont très concrets. Le premier, et ça montre que l'actualité, c'est quasiment tous les jours. C'est simplement comme ce qui s'appelle la fresque du sol. Et là, j'ai trouvé ça très original. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo, c'est un jeu avec des cartes, etc., etc. Il y a eu des temps forts qui se sont faits, dont un temps fort qui s'est fait en début de mois avec le World Impact Summit. Mais là, il y a une fresque du sol qui est prévue le 24 février.
C'est ça.
Ce que j'ai compris, c'était un atelier collaboratif avec des cartes à organiser, reliées pour passer à l'action. Et je me suis dit, alors, première question que je trouve très originale, qu'est-ce qu'un sol, comment se forme-t-il? Ah bon, on en est à ce point-là?
Ah oui, on en est à ce point-là. Nos cours de SVT, pour certains, de sciences civiles, la Terre, sont très loin. Et pour autant, quand je parlais de déconnexion un petit peu avec l'environnement, tout ce qui nous entoure, on est complètement sur cet aspect-là. Donc, le principe de fresque, ce sont des ateliers collaboratifs. Alors, je dis ce sont parce que, en fait, la plus médiatisée des fresques s'appelle la fresque du climat. Elle a été créée il y a quelques années pour justement alerter face au changement climatique. Bon, elle a un défaut, c'est qu'elle s'arrête un peu sur un constat et certains peuvent considérer qu'elle est un petit peu anxiogène. Moi, j'anime effectivement la fresque du sol qui est un atelier donc collaboratif. On revient toujours à cette idée de collectif. C'est un atelier qui a été créé par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et l'Association française pour l'étude des sols, la société scientifique qui regroupe les pédologues qui sont donc scientifiques du sol. Donc cet atelier, il a pour vocation à permettre la prise de conscience du lien que nous avons avec le sol, et ce de façon multiple. Et surtout, c'est un magnifique outil pour justement adresser l'ensemble de nos secteurs économiques. Parce que quand on parle sol, on va penser à agriculture, ou alors on va penser à son jardin, donc on est sur du paysage, mais ça va bien au-delà. Quand on parle lithium, c'est qu'il est extrait du sol. Lorsque on évoque aujourd'hui les inondations, les sols sont en mesure de retenir de l'eau. C'est eux aussi qui filtrent l'eau magnifique, l'eau douce que nous buvons. Quand on parle des nappes phréatiques qui s'imbibent, qui s'imprègnent, c'est uniquement lié à la santé des sols. Donc l'ADEME, il y a 3 ans, a créé cet atelier pour alerter et elle donne une caution très sérieuse à ce sujet qui mérite d'être déployé. Donc c'est vrai que la semaine dernière, tu l'as dit, j'étais présente au World Impact Summit. C'est un rendez-vous annuel qui existe depuis maintenant 8 ans et qui s'est déroulé Porte de la Villette. Auparavant, il était plutôt situé dans les environs de Bordeaux, à Bordeaux. Et donc, le World Impact Summit m'a permis de présenter cet atelier. C'est un rendez-vous des solutions impact. Alors, solutions, justement, face au changement climatique, et impact parce que nous avons besoin de pouvoir toucher toutes les entreprises, toutes les collectivités, et que chaque collaborateur, qui est aussi un citoyen par ailleurs, puisse avoir les données du problème. Et donc, c'est vrai que moi, j'anime la fresque du sol depuis 3 ans, dans des entreprises, dans des collectivités. Et tu as parlé du 24 février, c'est parce que j'organise aussi des sessions en ligne. Donc, ça me permet d'avoir des acteurs, des participants qui sont parfois très loin. J'ai déjà eu les États-Unis ou la Chine, c'est assez savoureux de pouvoir communiquer en direct avec ces personnes-là. Mais c'est donc un atelier qui est intéressant parce qu'il permet de la prise de conscience et surtout la mise en perspective des actions qui sont à mener. Puisqu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais la fresque du sol, c'est donc 3 heures d'un atelier avec des cartes où on pose les données du sujet. On voit les menaces qui pèsent sur le sol. Et surtout, il y a un temps de jeu de rôle. C'est là qu'on pouvait parler de jeu. Alors, tu as peut-être fait jeu en ligne, mais ce n'est pas un jeu vidéo. c'est un jeu de rôle qui permet de se projeter sur, une action qui ne serait pas la nôtre. Qu'est-ce que je ferais si j'étais agriculteur? Qu'est-ce que je ferais si j'étais homme d'affaires? Et ainsi de suite. Et ça permet d'envisager les actions à mettre en œuvre. Et c'est l'objectif de cet atelier. C'est mettre en action, expliquer ce que nous nous pouvons faire. C'est avant tout mon leitmotiv.
D'accord. Deuxième exemple, direction la Vallée Chevreuse. Et alors moi, quand j'ai regardé sur le site internet d'Enjeux majeurs, j'ai trouvé le centre de soins pour hérissons. Je me suis dit, les hérissons ont besoin d'être soignés maintenant.
Oh que oui. Ah oui, alors les petits qui piquent, je soutiens effectivement avec 1% de mon chiffre d'affaires annuel, je soutiens les petits qui piquent. Ils avaient leur assemblée générale samedi d'ailleurs. Et donc oui, c'est un centre de sauvegarde qui a fait l'objet de différents reportages vidéo d'ailleurs depuis quelques années, donc c'est assez sympathique. Oui, le hérisson, moi c'est un animal que je trouve très très mignon. Alors il est très discret, il vit la nuit, hein, il faut un petit peu camper dans son jardin à la tombée de la nuit l'été pour pouvoir le voir circuler. Et il est en danger parce que bien nos campagnes sont de moins en moins accueillantes. Nos jardins, lorsque l'on fait disparaître une haie vive d'arbrisseau par une clôture en métal ou en bois, eh bien ma foi, on détruit l'habitat de ce hérisson. Et donc c'est vraiment une volonté de soutenir cette association qui œuvre pour la sauvegarde des hérissons. Donc ils sont en mesure de recevoir des bébés hérissons dont la mère aurait été blessée ou tuée. Ils sont capables d'accueillir des animaux blessés. Une des blessures, tu vas peut-être pas l'imaginer, mais une des blessures fréquentes, c'est malheureusement avec des rotophiles dans les jardins. Lorsque des jardiniers professionnels ou particuliers passent le rotophile sous les haies, à la recherche d'une pelouse bien tendue, trop bien tendue, eh bien, ma foi, ils sont en mesure de blesser des hérissons parce que celui-ci a un fâcheux défaut, c'est qu'il ne s'enfuit pas. Il a plutôt tendance à se recroqueviller et à se figer sur place lorsqu'il y a du bruit. Et puis, bien sûr, l'hiver, quand il est en hibernation, il est bien incapable de d'étaler, d'aller se cacher. Donc, ce type de blessure est très fréquente, malheureusement. Et donc, plusieurs centres en France existent pour la sauvegarde des hérissons et celui-ci, donc en Vallée de Chevreuse, est particulièrement sympathique. Ça a été un des précurseurs et j'ai cœur à le soutenir.
Dernier exemple, là je vais me rater. Comment est-ce qu'on dit ça?
Les chaussettes.
Comment est-ce qu'on dit? Je ne me rappelle plus. Les chaussettes. Non. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est là où j'ai tuté. Je me suis dit, il faut que je capte absolument Véronique. Ça s'appelle les chaussettes solidaires.
Non. C'est ça.
Je sais pas. Moi j'ai une chaussette au pied gauche, une chaussette au pied droit. Elles sont solidaires les deux puisqu'elles me protègent. Mais ça dépasse le stade du traditionnel, on va dire.
Voilà, chaussettes solidaires, chaussettes orphelines, c'est la même équipe. Deux noms pour expliquer l'activité de cette association avec laquelle je collabore effectivement aussi. Qui n'a pas retrouvé dans son placard une chaussette en se disant mais où est la deuxième? C'est pas possible,
non,
je ne l'ai plus.
Non, ça n'arrive jamais, ce genre de choses, voyons.
Donc bon, on peut la porter toute seule ou faire dépareiller les couleurs, c'est pas très grave. Mais en soi, on a tous été confrontés donc avec des chaussettes usées, ou bien lorsqu'on a des enfants qui grandissent très vite avec des paires de chaussettes qui restent en bon état, mais clairement ne vont plus aux petits pieds de nos enfants. Donc, fort de ce constat, Marcia Carvalho, qui est une styliste, a créé il y a quasiment 20 ans, puisque c'était en 2008, a créé l'association Chaussettes Orphelines. Et en fait, cette association a pour vocation de collecter l'ensemble des chaussettes seules, abîmées, qui ne vont plus et que vous auriez tendance à vouloir jeter. Or, ça fait le lien avec mon activité RSE et la volonté d'engager vers le développement durable. Rien ne se jette. Tout est une ressource et on parlait de ressources planétaires. Eh bien, on y est. Donc, l'association, en fait, collecte les chaussettes auprès de particuliers. Les collectes peuvent être organisées dans les entreprises ou dans les collectivités, dans des bâtiments publics. Et les chaussettes qui sont collectées font l'objet d'un tri. Tout ce qui est en bon état va être réutilisé. Donc, on est bien sur le réemploi. Ce sera donné à des personnes dans le besoin. C'est donné au SAMU social. Enfin, il y a différentes exutoires. Et tout ce qui est en mauvais état, qui est troué, part en effilochage. Et donc, effilocher, c'est refaire défaire la chaussette. Donc, on défait la chaussette, on effiloche, et puis ensuite, on refait un fil avec donc la volonté de ne pas utiliser de produits de teinture. Donc, le tri aura aussi vocation à trier par couleur. Et l'association, l'entreprise, on fait travailler en France des filatures qui refont un fil recyclé. Mmh. Et puis ce fil donne lieu à textiles ou bien à des accessoires de mode et de couture qui sont en vente sur le site Chaussettes Orphelines, d'où les deux noms qui existent. Mais donc l'intérêt de cette association, c'est bien de sensibiliser à la réduction des déchets. C'est l'occasion aussi de proposer des ateliers de réparation. Donc aujourd'hui, quand on parle textile, on fait le constat qu'il y a énormément de choses qui sont jetées, beaucoup trop, alors même que ça peut être réparé. Donc il y a des actions de réparation. Et pourquoi solidaire ? Parce que j'en reviens à notre point de départ. Oui. C'est aussi que l'association met en place des formations pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont souvent peu éduquées. Elle les met dans un cycle de formation pour être capable de faire de la couture, fabriquer des vêtements, réparer des vêtements. Et aujourd'hui, il y a une démarche assez sensible pour réparer, pour ne pas jeter. Et donc, les ateliers couture recrutent. Donc, c'est très intéressant que ces personnes soient formées et elles trouvent ensuite assez facilement un emploi. D'où cette notion de chaussettes solidaires. Donc, j'invite vraiment les entreprises qui nous écoutent, qui t'écoutent, à organiser ce type de collecte dans leurs locaux. Ça fait l'objet d'un atelier pour démarrer la collecte ou en fin de collecte, ça dépend. Et cet atelier permet de sensibiliser les collaborateurs. C'est un moment sympathique aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise reçoit ensuite un bilan de collecte et à l'issue de l'opération, ce qui fait qu'elle est capable de mesurer le volume de CO2 qui a été économisé et aussi le volume d'eau qui a été économisé. Parce qu'en fait, quand on a parlé de nos chaussettes, on a parlé beaucoup de coton. Et le coton, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau lors de sa production et de son traitement. Donc, économiser 1 kg de chaussettes, 1 kg de coton, c'est économiser beaucoup de litres d'eau. Et ça, c'est un enjeu majeur. Voilà. Donc, vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à organiser une collecte.
D'accord. Alors, une colle, pourquoi que les chaussettes ?
Alors, parce qu'en fait, dans le dispositif, dans le processus technique d'effilochage, c'est avec un tube et donc c'est sur le modèle de chaussettes que c'est le plus réalisable, d'accord. C'est le plus facile. D'accord. Donc, c'est le processus d'effilochage qui crée cette contrainte, entre guillemets. Et puis surtout, c'est un secteur sur lequel il n'y avait personne. Beaucoup d'entités récupèrent des textiles pour même en faire des isolants. Hein, par exemple, le jean est bien collecté. Les autres textiles sont souvent collectés par des grands faiseurs et ça part soit en France, soit aux quatre coins du monde, alors que la chaussette est assez peu valorisée. Donc, c'est un bon point de pouvoir s'en occuper.
Allez, dernier point, je suis obligé de l'aborder parce que quand même, elle me fait rêver, moi. Elle n'est plus sur Terre. Elle avait ce rêve d'enfant depuis qu'elle avait 10 ans. Elle en a 42 maintenant. Elle est dans la station spatiale orbitale, la fameuse Sophie Anneau, qui est assez extraordinaire. Et alors, moi, je me dis, mais elle est complètement dans toute cette éthique que tu expliques, dans toutes ces valeurs. Parce que justement, comment dire, elle va là-haut pour faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre.
C'est vrai.
Est-ce qu'on a besoin de partir quand même dans l'espace pour prendre conscience ?
Ça, c'est un vaste débat. C'est vrai que l'innovation reste un moteur. Donc, à partir de là, continuons à innover. Mais clairement, il faut garder les pieds sur terre pour préserver nos belles ressources. Donc, je pense que c'est peut-être le mot-clé de préservation.
Si on veut assister, comment dire, à cet atelier le 24 février, comment est-ce qu'il faut faire ?
Alors, en allant sur mon site internet enjeuxmajeurs.fr, vous avez le lien vers la billetterie pour vous inscrire. Et puis, d'une façon générale, sur le site fresquedusol.com, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont notés. Mais donc, je peux répondre à toutes les demandes qui me seront envoyées via le site, mon site internet, enjeuxmajeurs.fr, pour mettre en place des collectes, mettre en place des ateliers. J'interviens bientôt dans une entreprise paysagère. J'interviens aussi chez un aménageur d'ici quelques jours, un aménageur du territoire, parce que les ingénieurs, ils ont leur vision d'un sol plat sur lequel ils vont construire un certain nombre de choses, mais il faut qu'ils soient conscients de tout ce qu'il y a en dessous. Le sol est un volume avant tout.
Eh bien, je voulais te remercier d'avoir pris tout ce temps-là pour nous détailler tout cela. Tu l'as fait très simplement, sans phénomène de mode, mais vraiment en expliquant les choses relativement claires. Merci à toi et puis...
Merci à toi, Alain.
Bonne activité à toi. Merci.
Merci, merci, à très bientôt.